Un tapis tissé à la main dans les montagnes de l'Atlas, ça peut se vendre des milliers d'euros dans une boutique de luxe.
Ah oui, facilement, à Paris, à New York.
Exactement. Et pourtant, l'ironie, enfin la triste ironie, c'est que la personne qui a passé des mois à nouer méticuleusement chaque fil de laine, bah, elle peine très souvent à en tirer un salaire régulier.
C'est un paradoxe qui est en fait assez brutal quand on y pense.
C'est complètement fou. Comment un tel décalage est-il possible en fait? Comment une culture qui produit des chefs-d'œuvre vraiment reconnus mondialement peut-elle laisser ses propres créateurs dans une telle précarité économique?
C'est la grande question. Et c'est pas un problème nouveau, tu sais.
En profondeur s'attaque justement à ce paradoxe, d'accord? Décortiquons un peu tout ça. Nous nous plongeons dans un corpus documentaire extrêmement riche. C'est une édition spéciale qui a été publiée en juillet 2026.
Tout à fait. C'est le fruit d'une très belle collaboration entre Elodie G Media et Phara Magazine, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça. Et ce dossier, c'est pas qu'un simple catalogue, hein. Il a été édité spécifiquement dans le cadre de la 17e édition du sommet Darmalma à Casablanca.
Un événement qui est vraiment crucial pour l'artisanat marocain, pour le coup.
Totalement. Et le but de notre analyse aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de comprendre comment un patrimoine culturel historique peut éviter le piège mortel, en fait, de la simple nostalgie.
Oui, pour se transformer en un moteur économique moderne, structuré et surtout durable. Parce que les données issues de ce sommet, bah, elles mettent en évidence un changement de paradigme fondamental.
Ah oui, dans quel sens?
Bah, le document ne se contente plus de célébrer juste la beauté des objets, tu vois. Il pose un regard clinique, presque chirurgical même, sur une industrie qui est vraiment à la croisée des chemins.
Genre, l'enjeu n'est plus seulement esthétique?
Exactement. L'enjeu, c'est la survie structurelle. La frontière entre un héritage vivant qui s'adapte et une relique figée destinée aux étagères poussiéreuses, bah, elle est extrêmement poreuse.
Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour comprendre cet enjeu, les sources introduisent un concept que j'ai trouvé super intéressant, la grammaire visuelle.
Ah oui, cette partie est passionnante.
Ouais, en gros, les textes affirment que les objets artisanaux marocains, c'est pas juste de la déco, ce sont de vrais vecteurs de communication. Genre, si on prend le zélige, par exemple...
Le fameux zélige, ouais.
Le document détaille comment cette céramique émaillée, taillée à la main, bah, elle évoque une précision géométrique qui relève d'une architecture savante. C'est pas juste un joli motif, quoi.
Non, c'est une véritable conception mathématique de l'espace, en fait. Et le texte prolonge cette énumération avec le caftan aussi, qui incarne l'élégance cérémonielle, la codification sociale.
Ouais, et le tapis? Le tapis qui porte littéralement la mémoire et l'histoire des tribus des montagnes.
Sans oublier la babouche, pour le confort du cuir, ou la théière et le tagine. Ce sont des objets qui donnent une forme matérielle à des concepts immatériels, genre l'hospitalité.
Ces objets ont une lisibilité internationale dingue. Ils sont partout dans les salons de design, sur les réseaux sociaux, dans les ambassades. C'est une signature visuelle immédiate.
Tout à fait. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que cette force symbolique monumentale constitue paradoxalement le plus grand danger pour le secteur.
Attends, comment ça un danger? C'est une bonne chose d'être reconnu, non?
Oui et non. Le document met vraiment en garde contre la muséification. Si cette grammaire visuelle reste cantonnée au statut de décor exotique, d'une simple vitrine touristique déconnectée des usages contemporains, le savoir-faire meurt.
Ah, je vois ce que tu veux dire. Un objet, ça doit pas être mis sous cloche.
Exactement. Pour qu'il vive, il faut qu'il soit acheté, utilisé au quotidien et surtout renouvelé dans son design.
Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est l'analogie parfaite avec un acteur typecasté.
Ah, c'est-à-dire?
Bah, imagine un comédien qui a un succès planétaire en jouant un super-héros iconique dans sa jeunesse. Le monde entier l'adore dans ce costume. Les touristes payent des fortunes pour les produits dérivés.
Oui, il est figé dans cette image.
C'est ça. Tout le monde chérit cette image nostalgique, mais la carrière réelle de l'acteur meurt à petit feu. Parce que l'industrie refuse de le voir évoluer, de lui confier des rôles ancrés dans le présent.
C'est une excellente comparaison. La nostalgie extérieure fige le talent antérieur. Et c'est pernicieux parce que ça donne l'illusion du succès. On vend des souvenirs, mais on ne bâtit pas une industrie.
Et ça, pour l'audience qui s'intéresse à l'économie de la culture, c'est une distinction vitale. La beauté du geste, ça ne paie pas les factures d'un atelier.
Non, clairement pas. Et ça n'attire pas non plus les jeunes générations d'artisans qui ont besoin de perspectives financières un minimum stables, quoi.
Donc si je résume, le symbole doit être soutenu par une infrastructure. La beauté a besoin d'un modèle économique.
C'est le nerf de la guerre.
Et ça nous amène directement à la question de l'argent et de la structuration, le fameux chaînon manquant dont parlent nos sources.
Oui, l'analyse économique de l'ODJ Media détruit une idée reçue très tenace à ce sujet. Le défi existentiel de l'artisanat marocain, c'est en aucun cas un manque de savoir-faire.
Ah non, le talent brut est bien là, c'est clair.
La virtuosité, la maîtrise des matières premières, tout est là. La faille, elle se situe vraiment dans la chaîne de valeur. Elle souffre d'un manque d'organisation chronique.
C'est pour ça que les revenus sont si irréguliers.
Exactement. Le système repose massivement sur des intermédiaires dominants qui captent toute la marge. L'artisan vend sa pièce pour presque rien à un bazariste qui va multiplier le prix par 10.
C'est terrible, ça. Et avec la dépendance au tourisme mondial, c'est la précarité assurée.
Voilà. La valeur naît dans l'atelier, mais l'artisan ne la capte pas.
Mais attends, là je veux me faire un peu l'avocate du diable. Quand je lis ça, je me dis, est-ce que la qualité exceptionnelle d'un zéliche fait main ou d'une babouche en cure, ça devrait pas se vendre tout seul?
Dans un monde idéal, peut-être, oui.
Bah oui. Je veux dire, pourquoi on exige un maître artisan qui a passé 30 ans à perfectionner son art, qu'il devienne soudainement un génie du marketing et de la logistique? C'est presque injuste.
C'est vrai que ça paraît injuste, mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble du commerce international, cette objection souligne une réalité douloureuse. L'époque où le chef-d'œuvre se vendait seul au fond d'une ruelle, c'est terminé.
Donc le talent seul, ça suffit plus?
Non. Les sources insistent lourdement sur la clarté commerciale. La valeur d'un produit aujourd'hui, elle réside aussi dans la capacité à communiquer de manière transparente.
Et concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi, cette clarté commerciale pour un artisan?
Bah, imaginons un cabinet d'architecte à l'étranger. Ou juste un couple qui rénove son appart à Casablanca. S'ils achètent de l'artisanat, ils veulent des fiches techniques, l'origine exacte, la durabilité, les dimensions au millimètre près.
Ouais, et un prix fixe est justifié, j'imagine.
Absolument. C'est cette transparence qui instaure la confiance. Et le document aborde aussi la nécessité de repenser la présentation. Fini l'époque du grand bazar où on empile tout de manière hétéroclite.
Ah oui, l'idée de créer de vraies collections, c'est ça l'idée, hein.
Voilà. Les boutiques modernes résonnent en univers esthétique. Vendre des tapis dépareillés, ça attire les chasseurs de bonnes affaires. Mais concevoir une ligne cohérente de luminaires avec l'art de la table assortie, ça séduit les professionnels.
Ouais, mais du coup, bâtir des collections, standardiser, tout ça, contourner les intermédiaires, ça demande une vraie vision entrepreneuriale pure et dure.
Et c'est exactement là que le sommet d'Arma Alma prend toute son ampleur. Il braque les projecteurs sur l'avant-garde de cette restructuration, le mouvement coopératif féminin.
Ah, les femmes coopératrices. Les sources documentent très précisément comment elles sont en train de court-circuiter le vieux système, non?
Tout à fait. Elles reprennent le contrôle de la chaîne de valeur. Elles ne se contentent plus de produire, elles dirigent de véritables entités économiques.
Le document cite des actrices clés et franchement, il faut qu'on en parle. Prenons Tabara Gueye, par exemple. Elle est présidente de la coopérative d'Habitat.
Oui, son travail est remarquable.
Elle tisse des liens entre le Sénégal et la diaspora. Ça montre bien la nécessité d'une ouverture internationale stratégique. Elle exporte carrément un modèle culturel collaboratif.
Exactement, elle ouvre de nouveaux corridors commerciaux. Et cette dimension stratégique, on la retrouve chez Salima El Bayeri aussi, mais sous un autre angle.
L'activisme environnemental, c'est ça?
C'est ça. Historiquement, le tannage ou les teintures, ça pouvait avoir un impact lourd. Elle aligne les méthodes traditionnelles sur les standards écologiques contemporains. Gestion de l'eau, colorants organiques, elle ouvre les portes de marchés internationaux super stricts sur l'éco-responsabilité.
C'est brillant. Le patrimoine à la pointe du combat climatique. Et il y a aussi Ito Damouge avec la coopérative Tamar Astat. Elle structure les tisserandes pour mutualiser les coûts d'achat et la force de vente.
Et aussi Aïcha Elmahashi de la coopérative Onnour, Fatia Taziut pour Tifina ou encore Ibtissam Batawi pour Ksar El Jamal. Elles accomplissent un travail logistique colossal.
Et ouais, elles font tout. Les catalogues, les négociations avec les transporteurs, les contrôles de qualité. Elles comblent toutes les failles de cette chaîne de valeur.
C'est la transition vitale de l'informel vers le formel. En se regroupant, elles éliminent la dépendance aux courtiers du coin et captent directement la marge commerciale.
Eh bien, tu sais quoi, Sam? C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah, raconte.
Bah, on constate que cette structuration avance, que la qualité est là. On pourrait penser que le but ultime, c'est d'inonder les marchés extérieurs, de remplir des porte-conteneurs vers l'Europe ou l'Asie.
C'est ce qu'on a tendance à croire, oui.
Sauf que les sources nous obligent à regarder dans la direction opposée. Le défi le plus existentiel pour ces métiers, il se joue sur le marché intérieur, en fait.
Et oui, parce que l'avenir d'une identité culturelle ne peut pas reposer uniquement sur le portefeuille des touristes étrangers. D'ailleurs, le texte pose la question frontalement. Le Marocain achète-t-il encore son artisanat?
Et la réponse fait mal. C'est une vraie fracture sociétale. Le lien affectif est là, le consommateur local aime viscéralement son patrimoine, mais bah, il n'achète plus.
La fréquence d'achat s'effondre, c'est vrai.
Mais parce que la vie urbaine a changé. Les appartements sont plus petits, la vie est plus rapide, les budgets sont serrés. Face à l'industrie mondialisée avec ses meubles en kit pas chers, l'artisanat subit.
Le produit traditionnel, avec ses délais imprévisibles, ses dimensions irrégulières, il perd la bataille de la commodité face aux meubles qui s'emboîtent partout.
En gros, c'est comme tenter d'écouter un vinyle de musique classique super majestueux sur un smartphone dernier cri.
L'image est excellente.
Bah, la qualité du vinyle est incontestable. Sa chaleur est inégalable. Mais le format, il est juste pas adapté à l'utilisateur moderne qui veut lancer sa musique en 2 secondes dans le métro, quoi.
Exactement. Le problème n'est pas la musique, c'est le support. L'artisanat a besoin d'un adaptateur pour se connecter aux usages d'aujourd'hui.
Ouais, en adaptateur, c'est tout à fait ça.
Et d'ailleurs, cela soulève une question importante concernant les jeunes générations. Le document démonte un gros mythe là-dessus.
Lequel ? Que les jeunes s'en fichent de la tradition ?
C'est ça. C'est totalement faux. Les jeunes adorent les éléments traditionnels dans la mode urbaine, les concept stores. Le désir de consommer local est très fort.
Mais alors, qu'est-ce qui bloque ?
Ce qui rejette, c'est l'expérience d'achat archaïque.
Ah, la fameuse négociation interminable dans le souk.
Voilà. Ça a un charme folklorique pour le touriste. Mais pour le jeune actif qui veut juste acheter une lampe pendant sa pause déjeuner, c'est une perte de temps épuisante. Cette friction transactionnelle, c'est un repoussoir.
Donc l'adaptateur dont on parlait, c'est juste des solutions pragmatiques en fait. Des prix fixes, des terminaux de paiement digitaux, une livraison fiable.
C'est exactement ça. Et sur le plan du produit, un design qui s'intègre dans un intérieur minimaliste contemporain. Sans cette fluidité, le consommateur choisira la facilité industrielle, même à contre-cœur.
Mais il y a quand même une lueur d'espoir dans le rapport via le tourisme intérieur. Le document parle de l'économie de l'expérience.
Oui, quand les locaux voyagent dans leur propre pays, à Fès, Marrakech ou Chefchaouen, le rapport à l'objet change, la friction disparaît au profit de l'immersion.
Ouais, tu vas dans l'atelier, tu vois l'artisan bosser, tu ressens la chaleur du four. L'acte d'achat devient un acte de soutien, en fait.
Cette rencontre humaine crée une valeur ajoutée émotionnelle que l'industrie standardisée est incapable de reproduire.
Et ça, pour notre audience, ça illustre un défi vraiment universel. Partout dans le monde, les industries locales doivent moderniser leur distribution sans perdre l'âme de leurs produits face à la mondialisation.
C'est une tension permanente. S'enraciner dans son histoire tout en maîtrisant les codes de la modernité économique. Sinon, on finit relégué au statut de simple folklore.
Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on synthétise tout ce qu'on vient de dire, l'artisanat marocain possède déjà ce que les grandes marques paient des milliards pour avoir. Une identité indélébile, une grammaire visuelle, une maîtrise technique.
Les fondations sont inébranlables. Le grand chantier, c'est la superstructure. Transformer ce patrimoine latent en économie de la prospérité demande une restructuration implacable.
Les chaînes de valeur, le leadership des femmes, des coopératives et la reconquête du marché local avec une expérience d'achat modernisée.
Exactement. Il faut brancher l'adaptateur.
Brancher l'adaptateur, j'adore. Et pour conclure cette exploration en profondeur, j'ai envie de pousser la réflexion un peu plus loin.
Vas-y, je t'écoute.
On vit dans un monde qui se numérise à une vitesse folle. L'IA générative peut concevoir des motifs complexes en 1 milliseconde. L'impression 3D peut reproduire des formes avec une perfection stérile, exacte au micron près.
L'efficacité de la machine est littéralement en train d'écraser la notion de rareté matérielle, oui.
Exactement. Et c'est peut-être là le grand retournement de situation. Dans ce monde saturé par l'ultra-perfection et la gratification instantanée, est-ce que les petites imperfections humaines, et surtout le temps atrocement long exigé par l'artisanat, ça ne deviendrait pas le luxe ultime de demain ?
Oh, c'est une perspective fascinante. Comme une sorte de rébellion silencieuse de la matière humaine contre l'algorithme.
Voilà. Une rébellion qui redéfinirait la valeur même du temps humain. Demain, la rareté suprême, ce ne sera pas l'objet parfait et reproductible. Ce sera la preuve tangible qu'un être humain a consacré des jours entiers de sa propre existence à façonner la matière.
C'est une pensée très puissante à garder à l'esprit la prochaine fois qu'on observera les belles irrégularités d'un objet fait main, en effet.
Je trouvais que c'était une belle note sur laquelle terminer. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion.